Marcof le Malouin, première partie, chapitre 16. La route des falaises. Au moment où le comte et le chevalier se mettaient en selle, le lieutenant civil de Quimper, accompagné de divers magistrats et suivi d'une escorte, arrivait au château pour dresser un inventaire détaillé et apposer officiellement les scellés. Le comte poussa du coude son compagnon. Ils échangèrent un sourire. « Qu'en dis-tu ? » murmura le comte en mettant son cheval au pas. « Je dis qu'il était temps, » répondit le chevalier. Les deux cavaliers franchirent le seuil du château en affectant beaucoup d'indifférence et de calme, et en laissant échapper quelques mots qui pouvaient donner à penser qu'ils se rendaient au-devant d'autres gentilshommes arrivant par la route de Quimper. Mais une fois sur la pente douce qui aboutissait au point où se croisaient le chemin de la ville et celui des falaises, ils s'empressèrent de suivre ce dernier. « Un temps de galop, Raphaël !» dit le comte en éperonnant son cheval. « On ne sait pas ce qui peut arriver. » 10 minutes après, jugeant qu'ils étaient hors de vue et rien n'indiquant qu'ils eussent un danger à redouter, ils mirent leurs chevaux à une allure plus douce. « Corbleu, Diego !» s'écria Raphaël. « La matinée n'est pas perdue !»« Certes, » répondit le comte, « la journée a été moins mauvaise que nous le pensions. Ah, ce matin, je n'espérais plus. Le morceau est joli, à défaut du gâteau tout entier. »« C'est là ton avis, n'est-ce pas ?»« Et le tien aussi, je suppose. » »« Oui, ma foi. Mais en y réfléchissant, je ne puis m'empêcher de me désoler un peu. Cette mort est venue faire avorter un plan si beau. Nous avons de l'or, Raphaël, mais nous ne sommes pas riches, et Henrik n'a pas de nom. Bah, tu lui donneras le tien. Maintenant que le marquis est mort, rien ne t'empêche d'épouser Hermosa. Hermosa n'est plus jeune. Oui, voilà la pierre d'achoppement. Mais après tout, elle est belle encore. Et quand elle aura cessé de l'être, tu t'en consoleras avec d'autres. Mais là n'est point la question. Je pense plus à l'argent qu'à l'amour. Or, environ 75 000 livres pour chacun, ce n'est guère. Et ne quittons pas le pays. Lançons-nous dans la politique. Si Billot Varenne tient parole, avant peu la noblesse va se voir assez malmenée. Alors nous quitterons nos titres, nous reprendrons nos véritables noms, et nous trouverons bien, au milieu de la révolution qui éclatera, le moyen de faire fructifier nos capitaux. Et si la noblesse triomphe, eh bien, nous garderons nos titres, et comme nous connaissons une partie des secrets des révolutionnaires, nous les combattrons plus facilement. Tu as réponse à tout. Tu t'embarrasses d'un rien. Corbleu, Raphaël, je suis fier de toi. Tu es mon élève, et bientôt tu seras plus fort que ton maître. Raphaël sourit dédaigneusement. Le comte le vit sourire, et ses yeux se fermant à demi, laissèrent glisser entre les paupières un regard moqueur qui enveloppa son compagnon. « Maître Corbeau » pensa-t-il. Il n'acheva pas la citation. En ce moment, les deux hommes, qui avaient quitté la route des falaises pour une chaussée plus commode, située à peu de distance et tracée parallèlement à la mer, les deux hommes, disons-nous, chevauchaient dans un étroit sentier bordé de genêts et d'ajoncs. Ces derniers, s'élevant à 5 et 6 pieds de hauteur, formaient un rideau qui leur dérobait la vue du pays. Les chevaux, auxquels ils avaient rendu la main, allongeaient leur cou et avançaient d'un pas égal et mesuré. Depuis quelques instants, le comte semblait prêter une oreille attentive à ces 1000 bruits indescriptibles de la campagne, auquel se mêlait le murmure sourd de la houle. Le chevalier paraissait plongé dans des rêveries qui absorbaient toute son intelligence. Enfin, il redressa la tête et s'adressant à son ami, « Diego, » dit-il. « Chut !» répondit le comte en se penchant vers lui. « Qu'est-ce donc ? On nous suit !»« On nous suit ?» répéta le chevalier en se retournant vivement. Pas sur la route, mais là, dans les genêts, il y a quelqu'un qui nous épie. Tiens la bride de mon cheval. » Le chevalier s'empressa d'obéir. Le comte sauta lestement à terre et s'élança sur le côté droit du sentier. Il écarta les genêts, il les fouilla de la main et du regard. « Personne !» s'écria-t-il ensuite. « Tu te seras trompé !»« C'est bien étrange. Tu auras pris le bruit du vent pour les pas d'un homme. » « C'est possible, après tout. Ne remontes-tu pas à cheval ?»« Tout à l'heure. » Le comte recommença son investigation, mais sans plus de résultat que la première fois. « Corbleu ! » fit-il en revenant à sa monture. « Corbleu, ces genêts sont insupportables. On peut vous espionner, vous suivre pas à pas, sans que l'on puisse prendre l'espion sur le fait. »«
Tu es fou, Diego.
Lors même qu'un homme eût marché dans le même sens que nous, « pourquoi penser qu'il nous épia ?»«
Allons, je me serais trompé. »«
Sans doute, » fit le chevalier en se remettant en marche. « Écoute-moi, mon cher, j'ai à te communiquer une idée lumineuse qui vient de me surgir tout à coup. »«
Quelle est cette idée ?»«
Voici la chose. »« Attends, » interrompit le comte, « regagnons d'abord le sentier des falaises. Du haut des rochers, au moins, on domine la campagne et personne ne peut vous entendre. »
« Soit, regagnons les falaises. »
Les deux cavaliers traversèrent le fourré et se dirigèrent vers les hauteurs. Le vent agitait en ce moment l'extrémité des genêts, de telle sorte que ni le chevalier ni le comte ne purent remarquer l'ondulation causée par le passage d'un homme qui courait en se baissant pour les devancer. Cet homme, dont la position ne permettait pas de distinguer la taille ni de voir le visage, arriva sur les rochers, les franchit d'un seul bond, tandis que les cavaliers étaient encore engagés dans les ajoncs, et, avec l'agilité d'un singe, il se laissa glisser sur une sorte d'étroite corniche suspendue au-dessus de l'abîme. Cette arête du roc longeait les falaises jusqu'à la baie des Trépassés. Elle était large de 18 pouces à peine, située à 4 pieds environ en contrebas de la route, et elle dominait la mer. On ne pouvait en deviner l'existence qu'en s'approchant tout à fait du pic des falaises. L'homme mystérieux pouvait donc continuer à suivre la même route que les cavaliers et à écouter toutes leurs paroles sans crainte d'être découvert par eux. D'autant mieux que la surface glissante des rochers ne permettait aux chevaux que de marcher au petit pas. Seulement, il fallait que cet homme eût une habitude extrême de suivre un pareil chemin, car il se trouvait sur une corniche large de 18 pouces, et la mort était au bas. Les deux cavaliers, une fois sur les falaises, continuèrent leur route et reprirent la conversation, un moment interrompu. « Tu disais donc ?» demanda le comte en regardant autour de lui et en poussant un soupir de satisfaction. « Tu disais donc, mon cher Raphaël ?»«
Que si tu veux m'en croire, Diego !»
Nous allons chercher dans le pays une retraite impénétrable, ignorée de tous les partis et où nous serons en sûreté.
Pourquoi faire ?
Tu ne comprends pas ?
Non,
développe ta pensée, Raphaël, développe ta pensée.
Ma pensée est que cette retraite, une fois trouvée, et nous parviendrons à la découvrir avec l'aide de Carfor,
nous nous y enfermerons pour y attendre les événements.
Bon ?
Nous y conduirons Hermosa, que tu aimes toujours, quoi que tu en dises, car elle est encore fort belle et n'a pas 40 ans, ce qui lui donne le droit d'en avoir 29.
Après,
tu y cacheras Henrique. De mon côté, j'y mènerai ma petite Bretonne, et nous passerons joyeusement là les 3 mois d'attente dont nous a parlé Billot Varenne. Bien entendu que l'un de nous ira de temps à autre aux nouvelles, et que, si les événements l'exigent, nous agirons plus tôt.
Eh bien, cela me sourit assez.
N'est-ce pas ?
Tout à fait, même.
Tu m'en vois enchantée.
Seulement, avoue une chose.
Laquelle ?
C'est que ta passion subite pour la jolie Yvonne de Fouesnant, la fiancée de ce rustre, te tient plus au cœur que tu ne voulais en convenir ces jours passés.
En entendant prononcer le nom d'Yvonne, l'homme qui suivait les falaises en rampant sur la corniche fit un tel mouvement de surprise qu'il faillit perdre pied,
et qu'il n'eut que le temps de s'accrocher à une crevasse placée heureusement à portée de sa main.
« Mais, répondit le chevalier, je ne te cache pas que la belle enfant me plaît assez. »«
Dis donc beaucoup. »«
Beaucoup, soit. » »«
Et tu comptes sur la promesse de Carfor pour l'enlever ?»«
Sans doute. »
C'est demain, je crois, que la chose doit avoir lieu.
Demain, après la célébration du mariage.
Ah, par ma foi, je ris de bon cœur en songeant à la figure que fera le marié.
Oui, ce sera, j'imagine, assez réjouissant à voir.
Les deux hommes se laissèrent aller à un joyeux accent d'hilarité. Quant à la retraite dont tu parles, reprit le comte en redevenant sérieux, il nous faudra nous en occuper ces jours-ci.
Nous en parlerons à Carfor.
Pourquoi nous fier à lui?
Il connaît le pays.
Crois-moi, Raphaël, en ces sortes de choses, mieux vaut agir soi-même et sans l'aide de personne.
Eh bien, nous agirons.
C'est cela. Mais avant tout, il faut songer à mettre notre trésor à l'abri des mains profanes.
Bien entendu, Diego. Allons d'abord à Quimper.
Dès demain, nous entrerons en campagne.
C'est arrêté.
Les deux cavaliers, suivant la route escarpée des falaises, dominaient la haute mer, nous le savons. Le ciel était pur, la brume, presque constante sur cette partie des côtes, s'était évanouie sous les rayons ardents du soleil. L'atmosphère limpide permettait à la vue de s'étendre jusqu'aux plus extrêmes limites de l'horizon. Le comte, qui laissait errer ses regards sur l'océan, arrêta si brusquement son cheval que l'animal, surpris par le mort, pointa en se jetant de côté.
« Raphaël !» dit le comte. « Regarde, là, sur notre gauche !»«
Eh bien, tu ne vois pas ce navire qui court si rapidement vers Penmark ?»«
Si fait, je le vois. Mais que nous importe ce navire ?»«
Dieu me damne si ce n'est pas le lougre de Marcof !»«
Le lougre de Marcof ?»
C'est le Jean-Louis, sang du Christ. Je le reconnais à sa mâture élevée et à ses allures de brique de guerre.
Impossible. Le paysan que nous avons rencontré il y a 3 jours à peine nous a dit que Marcof était allé à Paimbœuf et qu'il ne reviendrait que dans 12 jours au plus tôt.
Je le sais, mais néanmoins c'est le Jean-Louis, j'en réponds.
Marcof n'est peut-être pas à bord?
Allons donc, le Jean-Louis ne prend jamais la mer sans son damné patron.
Alors, si c'est Marcof, Diego, raison de plus pour chercher promptement un asile sûr.
C'est mon avis, Raphaël, car si ce diable incarné connaît la vérité, et Jocelyn la lui apprendra sans doute, il va se mettre à nos trousses. Or, je l'ai vu à l'œuvre, et je sais de quoi il est capable.
Je suis brave, Raphaël, je ne crains personne. Et tu as assisté près de moi à plus d'une rencontre périlleuse, n'est-ce pas? Eh bien, tout brave que je sois, et que tu sois toi-même, nous ne pouvons rivaliser d'audace et d'intrépidité avec cet homme. Il semble que la lutte, le carnage et la mort soient ses éléments. Marcof, sans armes, attaquerait sans hésiter 2 hommes armés, et je crois, sur mon âme, qu'il sortirait vainqueur de la lutte. Hâtons-nous donc de regagner Quimper, Raphaël, et mettons sans plus tarder ton sage projet à exécution. Un jour, nous trouverons l'occasion de nous défaire de cet homme. J'en ai le pressentiment. Mais en ce moment, ne compromettons point l'avenir par une imprudence.
Le comte et le chevalier, pressant leur monture, quittèrent la route des falaises en prenant la direction de Quimper. Chapitre 17. Marcof. Le comte de Fougueray ne s'était pas trompé. C'était bien le lougre de Marcof qu'il avait aperçu au loin sur la mer. Cette fois, comme le ciel était pur et la brise favorable, le Jean-Louis avait donné au vent tout ce qu'il avait de toile sur ses vergues. Le petit navire fendait la lame avec une rapidité merveilleuse, et Berwick, qui venait de jeter le loch, avait constaté la vitesse remarquable de 14 nœuds à l'heure. Le comte n'avait pas été le seul à constater l'arrivée inattendue du lougre. Un homme, qu'il n'avait pu voir, caché qu'il était par la falaise, un homme, disons-nous, suivait depuis longtemps les moindres mouvements du Jean-Louis. Cet homme était Keinec. Se promenant avec agitation sur la grève rocailleuse, il s'arrêtait de temps à autre, interrogeait l'horizon et reportait ses regards sur un canot amarré à ses pieds. Au gré de son impatience, le lougre n'avançait pas assez vite. Enfin, ne pouvant contenir l'agitation qui faisait trembler ses membres, Keinec s'embarqua, dressa un petit mât, hissa une voile et, poussant au large, il gouverna en mettant le cap sur le Jean-Louis. En moins d'une heure, le lougre et le canot furent bord à bord. Pervic, reconnaissant Keinec, lui jeta un câble que le jeune marin amarra à l'avant de son embarcation. Puis, s'élançant sur l'escalier cloué au flanc du petit navire, il bondit sur le pont. « Où est le capitaine ? » demanda-t-il à Pervic. « Dans sa cabine, mon gars, » répondit le vieux matelot. « Bon, je descends. » Keinec disparut par l'écoutille et alla droit à la chambre de Marcof, dont la porte était ouverte. Le patron du Jean-Louis, courbé sur une table, était en train de pointer des cartes marines. Il était tellement absorbé par son travail qu'il n'entendit pas Keinec entrer. « Marcof !» fit le jeune homme après un moment de silence. « Keinec !» s'écria Marcof en relevant la tête, et un éclair de plaisir illumina sa physionomie. « Ta présence m'en dit plus que tes paroles ne pourraient le faire, et je devine que je puis te tendre la main, n'est-ce pas ?»«
Je n'ai encore rien fait, » murmura Keinec.
Et les deux marins échangèrent une amicale poignée de main.
« J'apporte de bonnes nouvelles pour nous, » reprit Marcof.
« Et moi de mauvaises pour toi. »«
Qu'est-ce donc ?»«
Je t'ai entendu dire bien souvent que tu aimais le marquis de Locronan. »«
Le marquis de Locronan ?» s'écria Marcof. « Sans doute. Je l'aime et je le respecte de toute mon âme. Il a toujours été si bon pour moi. »
« Alors, mon pauvre ami, du courage. »«
Du courage, dis-tu ? » ?»«
Oui, Marcof, il t'en faut. »«
Mais pourquoi ? Pourquoi ?»«
Parce que... »
Keinec s'interrompit.
« Tonnerre, parle donc !»«
Le marquis est mort, hier. »«
Le marquis de Locronan est mort ?»
s'écria le marin d'une voix étranglée.
« Oui. »«
Par accident ?»«
Non, dans son lit. »
Marcof demeura immobile. Sa physionomie bouleversée indiquait énergiquement tout ce qu'une pareille nouvelle lui causait de douleur. Le sang lui monta au visage. Il arracha sa cravate qui l'étouffait. Ses yeux s'ouvrirent comme s'ils allaient jaillir de leurs orbites. Puis il se laissa tomber sur un siège et il prit sa tête dans ses mains. Alors, des sanglots convulsifs gonflèrent sa poitrine. Des cris rauques s'échappèrent de sa gorge, et au travers de ses doigts crispés, des lames brûlantes roulèrent sur ses joues bronzées par le vent de la mer. Le désespoir de cet homme était terrible et puissant, comme sa nature. Keinec le contemplait dans un religieux silence. Enfin Marcof releva lentement la tête, ses larmes tarirent, il quitta son siège, et il marcha rapidement quelques secondes dans l'entrepont. Puis il revint près de Keinec.
« Donne-moi des détails, » lui dit-il.
Le jeune homme raconta tout ce qu'il savait de la mort du marquis, et ce qu'il raconta était l'expression la plus simplement exacte de la vérité.
« De sorte, » continua Marcof, « que c'est hier matin que le marquis est mort ?»«
Oui, » répondit Keinec.
« À cette heure, on le descend dans le caveau de ses pères.
Ainsi, je ne pourrai même pas revoir une dernière fois son visage.
Dès que j'eus connaissance de cette horrible catastrophe, continua Keinec, je pensais à t'en donner avis en te faisant passer une lettre par le premier chasse-marée en vue qui eut mis le cap sur Paimbœuf. J'ignorais que tu revinsses si promptement.
Je ne suis allé qu'à l'île de Groix, mon ami, et c'est Dieu qui sans doute l'a voulu ainsi, puisqu'il a permis que je puisse arriver le jour même de l'enterrement du marquis.
Aussi, dès que j'ai reconnu ton lougre à ses allures, je me suis mise en mer pour venir à toi.
Merci, Keinec, merci. Tu es un brave gars. Oh, vois-tu, Je souffre autant que puisse souffrir un homme, continua Marcof, dont les larmes débordèrent de nouveau.
Cela t'étonne, n'est-ce pas, de me voir terrassé par le chagrin, moi que tu as vu si souvent donner la mort avec un sang-froid farouche. Cela te paraît bizarre, ridicule peut-être, de voir pleurer Marcof. Marcof le cœur d'acier, comme l'appellent ses matelots. Tu me regardes et tu doutes. Oh, c'est que le marquis de Locronan, entends-tu. Le marquis de Locronan, c'était tout ce que j'adorais ici-bas. Je n'ai jamais embrassé ni mon père ni ma mère, moi, Kennec. Je n'ai jamais connu la tendresse d'un frère. Je n'ai jamais éprouvé de l'amour pour une femme. Eh bien, rassemble tous ces sentiments, pétris-les pour n'en former qu'un seul. Joins-y l'admiration, l'estime, le respect, et tu n'auras pas encore une idée de ce que je ressentais pour le marquis de Locronan. Tu ne me comprends pas. Tu ne t'expliques pas comment il peut se faire qu'un obscur matelot comme moi porte une telle affection à un gentilhomme d'une ancienne et illustre famille. C'est un secret, Kennec, un secret que je t'expliquerai peut-être un jour. Aujourd'hui, sache seulement que tout ce que le cœur peut endurer de torture, le mien le supporte à cette heure. Oh, je suis bien malheureux, bien malheureux. Et il murmura à voix basse, « Mon Dieu, vous me punissez trop cruellement. Il fallait me frapper moi et l'épargner, lui. » Kennec comprenait qu'en face d'un pareil désespoir, les consolations seraient impuissantes. Il écoutait donc en silence et profondément ému lui-même. Marcof se calma peu à peu. « Matelot, dit-il, crois-tu que nous arrivions à temps pour assister à l'office des morts ?»«
Ne l'espère pas, répondit Kennec. À l'heure où j'ai quitté la côte, les prières étaient commencées, et maintenant le corps du marquis repose dans le caveau mortuaire du château. »
Ne pas avoir revu ses traits, ne plus le revoir jamais, murmurait avec amertume le patron du Jean-Louis. Une pensée subite sembla l'illuminer tout à coup.
« Kennec ! » s'écria-t-il.
« Que veux-tu ?
Tu m'aimes, n'est-ce pas ?
Oui, tu m'es fidèle.
Oui, Marcof, fidèle et dévoué. J'aurai besoin de toi cette nuit. Peux-tu m'aider ?
Cette nuit, comme toujours, je suis à toi.
Bien.
À quelle heure veux-tu que je sois prêt ?
À 10 heures. Trouve-toi dans la montagne, auprès du mur du parc, à l'angle du sentier qui rejoint l'avenue.
J'y serai.
Merci, mon gars.
Puis-je encore autre chose pour toi ?
Oui, nous approchons de Penmark. Monte sur le pont et prends le commandement du lougre pour franchir la passe.
Kennec obéit et Marcof demeura seul. Alors, face à face avec lui-même, l'homme de bronze se laissa aller à toute l'expansion de sa douleur. Pendant 2 heures, prières et cris d'angoisse s'échappèrent confusément de ses lèvres. Ses yeux, devenus arides, étaient bordés d'un cercle écarlate. Sa main puissante anéantissait des objets qu'elle prenait convulsivement. Enfin, le corps brisé, l'âme torturée, Marcof se jeta sur son hamac. La douleur avait terrassé cette vaillante nature. Jusqu'à la nuit, Marcof ne bougea plus. 2 fois, le mousse chargé du soin de préparer son repas entra dans la cabine. 2 fois, le pauvre enfant sortit, sans avoir osé troubler les rêveries désolées de son chef. Les matelots, stupéfaits de ne pas avoir vu Marcof présider au mouillage, s'interrogeaient du regard. Le vieux Bervik surtout exprimait sa surprise par des bordées de jurons énergiques empruntées à toutes les langues connues et qui s'échappaient de sa large bouche avec une facilité résultant de la grande habitude. Kennec avait formellement défendu aux matelots de descendre dans l'entrepont. Le jeune homme voulait qu'on laissât Marcof libre dans sa douleur. Vers 8 heures du soir, Marcof se jeta à bas de son hamac. Il ouvrit un meuble et il en tira une petite clé d'abord, puis une plus grande, et il les serra précieusement toutes deux dans la poche de sa veste. Il passa ses pistolets à sa ceinture. Il prit une courte hache d'abordage et une forte pioche qu'il roula dans son caban. Cela fait, il mit le tout sous son bras et monta sur le pont. Il jeta un long regard sur son lougre. Il passa devant Bervik sans prononcer une parole et il descendit à terre. Il traversa rapidement Penmark, il prit le chemin des Pierres Noires et, tournant brusquement sur la gauche, il se dirigea vers les montagnes. La nuit était noire. La lune ne s'était point encore levée et une brume assez forte couvrait la terre. Arrivé au pied de la demeure seigneuriale, Markov continua sa route, longea le mur du parc et s'engagea dans le sentier conduisant à la montagne. Tout à coup, une forme humaine se dressa devant lui. « C'est toi, Kennec ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit le jeune homme. « Viens !» Après avoir franchi l'espace d'une centaine de pas, Markov s'arrêta devant une porte étroite et basse pratiquée dans la muraille. Il tira la petite clé de sa poche et il ouvrit cette porte. « Suis-moi, » dit-il à Kennec. Tous deux entrèrent. Markov, un homme qui connaît parfaitement les êtres, guida son compagnon à travers le dédale des allées et des taillis. Bientôt, ils arrivèrent devant le corps de bâtiment principal. Markov se dirigea vers l'angle du mur, il pressa un bouton de cuivre, il fit jouer un ressort, et une porte massive tourna lentement sur ses gonds. À peine cette porte fut-elle ouverte qu'une bouffée de cet air frais et humide, atmosphère habituelle des souterrains, les frappa au visage. Markov tira un briquet de sa ceinture, fit du feu, alluma une torche et avança. Kennec le suivit silencieusement. Un escalier taillé dans le roc les conduisit en tournant sur lui-même dans un premier étage inférieur. « Où sommes-nous donc, Markov ?» demanda Kennec à voix basse. « Dans les caveaux du château de Locrenan, » répondit le marin. Kennec se signa. Markov avançait toujours. Après avoir traversé une longue galerie voûtée, il se trouva en face d'une porte en fer, percée d'ouvertures en forme d'arabesque qui permettaient de distinguer à l'intérieur. Grâce à la clarté projetée par la torche que tenait Markov, on pouvait apercevoir une longue rangée de sépulcres. Le marin prit alors la plus grande des deux clés qu'il avait apportées et l'introduisit dans la serrure. Le mouvement qu'il fit pour pousser la porte renversa la torche qui s'éteignit. Les deux hommes demeurèrent plongés dans une obscurité profonde. Tout autre à leur place eût sans doute été en proie à un mouvement de frayeur. Mais, soit bravoure, soit force de volonté, ils ne parurent ressentir aucune émotion. « Ramasse la torche !» dit Markov d'une voix parfaitement calme, tandis qu'il battait le briquet. « La voici !» répondit Kennec. La torche rallumée, ils entrèrent. Parmi tous ces sépulcres, rangés symétriquement, la tête adossée à la muraille, on en distinguait un, le dernier, dont la teinte plus claire attestait une construction récente. Des fragments du plâtre encore frais qui avait servi à sceller la dalle étaient épars autour de ce tombeau. Markov, avant de s'en approcher, se dirigea vers celui qui le précédait. C'était la tombe du père du marquis de Locrenan. Il s'agenouilla et pria longuement. Kennec l'imita. Puis, se relevant, il revint à la dernière tombe, qui se trouvait naturellement placée la première en entrant dans le caveau. « C'est là qu'il repose » murmura-t-il. Et, prenant une résolution, « Kennec, » dit-il, « à l'œuvre, mon gars !»« Que veux-tu donc faire, Markov ?»« Enlever cette pierre, d'abord. » »« Et ensuite ?» Retirer le cercueil, l'ouvrir, embrasser une dernière fois le marquis et le recoucher ensuite dans sa dernière demeure. Une profanation, Markov ! Non, je te le jure, j'ai le droit d'agir ainsi que je veux le faire. Markov ! Ne veux-tu pas me prêter ton aide ? Mais songe donc ! Pas de réflexion, Kennec ! Interrompit Markov. Réponds oui ou non, pars ou reste. « Je suis venu avec toi, » dit Keinec après un silence. « Je t'ai promis de t'aider et je t'aiderai. »«
Merci, mon gars. Et maintenant, mettons-nous à l'œuvre sans plus tarder. Travaillons, Keinec. Et je te le répète encore, que ta conscience soit en repos. J'ai le droit de faire ce que je fais. »
« Je ne te comprends pas, Markov, mais n'importe, dispose de moi. »
Chapitre 18. Le sépulcre du marquis de Locronan. Markov donna la pioche à Keinec et prit sa torche. Tous deux se mirent en devoir de déceler la large dalle. Le plâtre, qui n'avait pas eu le temps de durcir depuis les quelques heures qu'il avait été employé, céda facilement. Introduisant le manche de la pioche entre la dalle et les bords de la tombe, Keinec s'en servit comme d'un levier. Markov joignit ses efforts aux siens. Tous deux, roidissant leurs bras, la dalle se souleva lentement, puis elle glissa sur le bord opposé et tomba sur la terre molle. Le sépulcre était ouvert. Markov fit un signe de croix sur le vide et dit à Keinec « Je vais descendre. » Allume la seconde torche qui est dans mon caban et tu me la donneras. »
Keinec obéit.
« Bien, maintenant, matelot, prends le paquet de cordes et donne-le-moi aussi. »
Markov enroula les cordes autour de son bras droit. Et éclairé par Keinec, il descendit avec précaution dans le caveau. La bière reposait sur deux barres de fer scellées dans la muraille. Markov l'attacha solidement, puis, pressant l'extrémité de la corde entre ses dents, il remonta. Keinec, devinant ses intentions, saisit le cordage et tous deux tirèrent doucement, sans secousse, pour hisser le cercueil à l'orifice du caveau. La tâche était rude et difficile, car le cercueil, en chêne massif et doublé de plomb, était d'une extrême pesanteur. Mais la volonté froide et inébranlable de Markov décuplait ses forces. Keinec l'aidait de tout son pouvoir. Après un travail opiniâtre, l'extrémité du cercueil apparut enfin. Les deux hommes redoublèrent d'efforts. Markov, laissant à son compagnon le soin de maintenir en équilibre le funèbre fardeau, quitta la corde, se glissa dans le caveau et poussa le cercueil de toute la vigueur de ses mains puissantes. Keinec l'attira à lui. Certes, quiconque eût pu assister à ce spectacle aurait cru à quelque effroyable profanation. L'ensemble de ces deux hommes ainsi occupés offrait un aspect fantastique et lugubre. Travaillant dans ce caveau sépulcral à la pâle clarté de deux torches vacillantes qui laissaient dans l'obscurité les trois quarts du souterrain, on les eût pris pour deux de ces vampires des légendes du Moyen-Âge, qui déterraient les corps fraîchement ensevelis pour satisfaire leur infâme et dégoûtante voracité. Leurs vêtements en désordre, leurs figures pâles, leurs longs cheveux flottants ajoutaient encore à l'illusion. Et cependant, c'était l'amour fraternel qui conduisait l'un de ces hardis fossoyeurs. C'était l'amitié qui guidait l'autre. Markov voulait revoir les restes chéris de celui qu'il avait perdu. Keinec aidait Markov dans l'accomplissement de ce pieux désir, parce que Markov était son ami. Encore quelques efforts, et leur travail pénible allait être couronné de succès. Markov, voyant la bière maintenue par Keinec, se hissa hors du tombeau, puis tous deux attirèrent leur cercueil pour le déposer doucement à terre. Malheureusement, ils avaient compté sans le poids énorme du cercueil. À peine l'eurent-ils inclinés de leur côté que la masse les entraîna. Leurs ongles se brisèrent sur le coffre de chêne. Le cercueil, poussé par sa propre pesanteur, fit plier leurs genoux. En vain, ils firent un effort suprême pour le retenir. Ils ne purent en venir à bout. La bière tomba lourdement à terre. Markov poussa un cri de douleur. Keinec laissa échapper une exclamation de terreur folle et il recula, comme pris de vertige, jusqu'à ce qu'il fût adossé à la muraille. C'est qu'en tombant à terre, le cercueil, au lieu de rendre un son mat, avait semblé pousser un soupir métallique. On eût dit plusieurs feuilles de cuivre frappant les unes contre les autres.
Keinec et Marcof se regardèrent. Ils frémissaient tous deux.
« As-tu entendu ?» demanda Keinec à voix basse.
« Quoi ? Qu'est-ce que cela ?»«
L'âme du marquis qui revient !»« Oh, si cela pouvait être !» fit Marcof en s'inclinant. « Ce serait trop de bonheur !»«
Marcof, si tu m'en crois, tu renonceras à ton projet !»«
Non !»«
Eh bien, achevons donc à l'instant, car j'ai tout, fici !»«
Achevons !» Ils déclouèrent la bière. Au moment d'enlever le couvercle, ils s'arrêtèrent tous deux et firent le signe de la croix. Puis, d'une main ferme, Marcof souleva les planches déclouées. Un long suaire blanc leur apparut. Marcof porta la main sur l'extrémité du suaire pour le soulever à son tour. Keinec recula. Marcof écarta le linceul et se pencha en avant. Ses yeux devinrent hagards, ses cheveux se hérissèrent, il poussa un grand cri et tomba à genoux.
« Keinec ! » s'écria-t-il. « Le marquis n'est pas mort !»
Keinec, domptant sa terreur, se précipita vers lui.
« Keinec ! » reprit Marcof. « Le marquis n'est pas mort !»«
Que dis-tu ?
Regarde !»«
Non, non !» répondit Keinec, qui crut que son compagnon était devenu fou.
« Mais regarde donc, te dis-je !»
Et Marcof, arrachant le linceul, découvrit, au lieu d'un cadavre, un rouleau de feuilles de cuivre.
« Miracle !» s'écria Keinec.
« Non, pas de miracle !» répondit Marcof. « Le marquis a voulu faire croire à sa mort. »«
Dans quel but ?»«
Le sais-je ? Mais viens, j'étouffe de joie. Le vieux Jocelyn nous dira tout. » Et, se précipitant hors du caveau sépulcral, Marcof entraîna Keinec avec lui. Dès qu'ils furent remontés, et après avoir refermé l'entrée secrète du souterrain, ils se dirigèrent vers une autre porte, dissimulée dans la muraille. Mais au moment de frapper à cette porte ou de faire jouer un ressort, Marcof s'arrêta.
« Nous ne devons pas entrer par ici, » dit-il.
« Faisons le tour et allons sonner à la grille. »
« Mais écoute, Keinec, avant de sortir d'ici, il faut que tu me fasses un serment solennel. Jure-moi, sur ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré au monde, de ne jamais révéler à personne ce dont nous venons d'être témoins. »
« Je te le jure, Marcof, » répondit Keinec.
« Pour moi, comme pour tous, monsieur le marquis de Locronan est mort, et bien mort. »
« Partons maintenant. »
« Tu oublies quelque chose. »«
Quoi donc ?
Nous n'avons pas remis ce cercueil à sa place et nous avons laissé la tombe ouverte. »«
Qu'importe, Jocelyn et moi avons seuls les clés du caveau et je vais parler à Jocelyn. »
Keinec se tut. Les deux amis firent rapidement le tour du mur extérieur et allèrent sonner à la grille d'honneur. On fut longtemps sans leur répondre. Enfin, un domestique accourut.
« Que demandez-vous ? » fit-il.
« Nous demandons à entrer au château. »«
Pourquoi faire ? Monsieur le marquis est mort, et les scellés sont posés partout. »«
Faites-nous parler à Jocelyn. »«
À Jocelyn ? » répéta le domestique.
« Oui, sans doute, »
répondit Marcof avec impatience.
« Impossible. »«
Pourquoi ? » ?»«
Parce que cela ne se peut pas, vous dis-je. »«
Mais tonnerre, t'expliqueras-tu ? » s'écria le marin.
« Parle vite, ou sinon je t'envoie à travers les barreaux de la grille une balle pour te délier la langue. »«
Ah, mon Dieu !» fit le domestique avec effroi.
« Je crois que c'est le capitaine Marcof. »«
Eh oui, c'est moi-même, et puisque tu m'as reconnu, ouvre-moi vite, ou fais venir Jocelyn. »«
Mais encore une fois, cela ne se peut pas. »«
Est-ce que Jocelyn est malade ?»«
Non. »«
Eh bien ?»«
Mais il est parti. »«
Parti ?» « Jocelyn a quitté le château ?»«
Oui, monsieur. »«
Mais quand cela ?»«
Aujourd'hui même, pendant que la justice posait les scellés, et tout de suite après que l'on eut descendu dans les caveaux le corps de notre pauvre maître. »«
Où est-il allé ?»«
On l'ignore, on l'a cherché partout. Il y en a qui disent qu'il s'est tué de désespoir. »«
Où peut-il être ?» se demandait Marcof en se frappant le front.
« Vous voyez bien qu'il est inutile que vous entriez, » dit le domestique.
Et sans attendre la réponse, il se hâta de se retirer. Marcof et Keinec s'éloignèrent.
Arrivé sur les falaises, Marcof s'arrêta, et saisissant le bras du jeune homme,
« Keinec, dit-il,
que veux-tu ? Je mets à la voile à la marée montante. Tu vas venir à bord. »
« Je ne le puis pas, Marcof.
Pourquoi ?
Parce que c'est bientôt qu'Yvonne se marie.
Eh bien,
et tu sais bien qu'il faut que je tue Jahoua.
Encore cette pensée de meurtre ?
Toujours ! »
Marcof demeura silencieux. Keinec semblait attendre.
« Qu'as-tu fait depuis mon départ ? »
demanda brusquement le marin.
« Rien.
Ne mens pas.
Je te dis la vérité.
Tu as vu quelqu'un cependant ?»
Keinec se tut.
« Réponds ! »
« J'ai juré de me taire. »
« Je devine. Tu as consulté Carfor. »
« C'est possible. »
« C'est lui qui te pousse au mal. »
« Non. Ma résolution était prise. »
« C'est lui qui te l'a inspiré jadis, je le sais. »
Keinec fit un geste d'étonnement, mais il ne démentit pas l'assertion de Marcof.
« Sorcier de malheur !» reprit celui-ci avec violence. « Je t'attacherai un jour au bout d'une de mes vergues. »
Keinec demeura impassible. Marcof frappait du pied avec colère. «
Encore une fois, viens à bord. »
« Non. »
« Tu refuses ?»«
Oui. »
« Tu viendras malgré toi, » s'écria le marin. Et se précipitant sur Keinec, il le terrassa avec une rapidité effrayante. Keinec ne put même pas se défendre. Il fut lié, garrotté et bâillonné en un clin d'œil. Cela fait, Marcof le prit dans ses bras et le transporta dans les genêts.
« Maintenant, se dit-il, les papiers de l'armoire de fer m'apprendront peut-être la vérité. »
Abandonnant Keinec, qu'il devait reprendre à son retour, il se dirigea rapidement vers le château. À peine eut-il disparu, qu'un homme de haute taille, écartant les genêts, se glissa jusqu'à Keinec, tira un couteau de sa poche, trancha les liens et enleva le bâillon.
« Merci, Carfor !»
fit Keinec en se remettant sur ses pieds.
« Viens vite !»
répondit celui-ci. Et tandis que Keinec, silencieux et pensif, suivait la falaise, Carfor murmurait à voix basse.
« Ah, Marcof, pirate maudit, tu veux me pendre à l'une de tes vergues ? Tu apprendras à connaître celui que tu menaces, je te le jure !»
Puis, sans échanger une parole, les deux hommes se dirigèrent vers la grotte de Carfor. Pendant ce temps, Marcof, pénétrant de nouveau dans le parc, arrivait à la petite porte qu'il n'avait pas voulu ouvrir. Il fit jouer un ressort, la porte s'écarta. Il entra. Sans allumer de torche, cette fois, il gravit l'escalier qui se présentait à lui. Il pénétra dans la chambre mortuaire et il voulut ouvrir la porte donnant sur le corridor. Il sentit une légère résistance. Cette résistance provenait de la bande de parchemin des scellés apposés sur toutes les portes du château.
« Tonnerre ! » murmura-t-il. « La bibliothèque doit être fermée également. »
Il réfléchit pendant quelques secondes. Puis il ouvrit la fenêtre et, montant sur l'appui, il se laissa glisser jusqu'à la corniche. Grâce à cette agilité, qui est l'apanage de l'homme de mer, il gagna extérieurement la petite croisée en ogive qui éclairait la pièce dans laquelle il voulait pénétrer. Il brisa un carreau, il passa son bras dans l'intérieur, il tira les verrous, il poussa les battants de la fenêtre et il pénétra dans la bibliothèque. Alors il alluma une bougie et se dirigea vers la partie de la pièce que lui avait désignée son frère. Il déplaça les volumes, il reconnut le secret indiqué. L'armoire s'ouvrit sans résistance. Elle renfermait une liasse de papiers. Marcof tira ses papiers à lui, s'assura que l'armoire ne renfermait pas autre chose, la referma et remit les in-folios en place dans leur rayon. Puis, la curiosité le poussant, il entr'ouvrit les papiers et en parcourut quelques-uns. Tout à coup, il s'arrêta.
« Ah, pauvre Philippe ! » murmura-t-il. « Je devine tout maintenant ! Je devine !»
Se disant, il mit les manuscrits sur sa poitrine, les assura avec l'aide de sa ceinture, et, reprenant la route aérienne qu'il avait suivie, il gagna le petit escalier du parc. Quelques minutes après, il atteignit l'endroit où il avait laissé Keinec. La lune s'était levée et éclairait splendidement la campagne. Marcof reconnut la place. Il la vit foulée encore par le corps du jeune homme, mais elle était déserte.
« Carrefour nous épiait !» dit-il au bout d'un instant. « Keinec est libre. Ah, malheur au pauvre Jahoua. Malheur à lui et à Yvonne. Damné sorcier, je fais serment que tout le sang qui sera versé par ta faute, tu me le paieras goutte pour goutte. »
Puis, se remettant en marche, il aperçut bientôt les maisons de Penmarc et la mâture élancée de son lougre qui se balançait sur la mer.
Chapitre 19. Carrefour et Raphaël. Dès que Carrefour et Keinec furent arrivés à la baie des Trépassés, ils entrèrent dans la grotte. Keinec était toujours silencieux et sombre. Carrefour souriait de ce mauvais sourire du démon triomphant.
« Mon gars, dit-il enfin, tu vois ce que Marcof a tenté contre toi. »«
Ne parlons plus de Marcof, répondit Keinec avec impatience. « Marcof est mon ami. Quoi que tu dises, Carrefour, tu ne parviendras pas à me faire changer d'avis. »«
Ainsi tu lui pardonnes de t'avoir violenté. »«
Oui. » »«
Tu l'en remercies même. »«
Sans doute, car je juge son intention. »
« À merveille, mon gars, n'en parlons plus, comme tu dis, mais tu aurais tort de t'arrêter en si belle voie. Tu pardonnes à Marcof, pendant que tu es en train, pardonne à Yvonne, et remercie-la d'épouser Jahoua. »«
Tais-toi, Carrefour, tais-toi. »«
Bah, pourquoi te contraindre ?»«
Tais-toi, te dis-je. » répéta Keinec d'une voix tellement impérative que Carrefour se recula.
« Si j'ai accepté la liberté que tu m'as rendue ce soir, c'est que je veux me venger. »«
Dès aujourd'hui ?
Le puis-je donc ?
N'est-ce pas aujourd'hui qu'a lieu le mariage ?
Tu te trompes, Carrefour. La mort du marquis de Locronan a fait remettre la fête de la Soule et la cérémonie du mariage de Jahoua et d'Yvonne. »«
Ah, tu sais cela ? » fit Carrefour avec un peu de dépit.
« L'ignorais-tu ?
Non. »
« Alors, pourquoi me demander si je me vengerai aujourd'hui, lorsque toi-même tu m'as affirmé qu'il me fallait attendre le jour de la bénédiction nuptiale ?»
Carrefour ne répondit pas. Depuis quelques instants, il paraissait réfléchir profondément. Enfin, il se leva, sortit de la grotte, interrogea le ciel, et, revenant vers le jeune homme, « 3 heures passées, » dit-il. « Keinec, il faut que je te quitte. Je m'absenterai jusqu'au soleil levé. Mais il faut que tu m'attendes ici. Il le faut, Keinec, au nom même de ta vengeance, dont le moment est plus proche que tu ne le crois. »«
Que veux-tu dire ?
Je m'expliquerai à mon retour. M'attendras-tu ?
Oui. »
Sans ajouter un mot, Carrefour prit son pamba et s'éloigna. Après avoir regagné les falaises, le berger longea la route de Quimper et s'enfonça dans les genêts. Il avait sans doute une direction arrêtée d'avance, car il marcha sans hésiter et arriva à une saulaie située à peu de distance d'un petit ruisseau. Au moment où il pénétrait, un cavalier débouchait de l'autre côté. Ce cavalier était le chevalier de Tessy.
« Pas de sang bleu !
S'écria-t-il joyeusement en apercevant Carrefour. « Te voilà enfin. Sais-tu que j'allais parodier le mot fameux de Sa Majesté Louis XIV et dire « J'ai failli attendre ?»«
Je n'ai pas pu venir plus tôt, » répondit Carrefour.
« Tu arrives à l'heure, c'est tout ce qu'il me faut. Ta présence me prouve que tu as trouvé mon message dans le tronc du vieux chêne, ainsi que cela était convenu entre nous. »
« Je l'ai trouvé. » « Que voulez-vous de moi ?»«
Corbleu, je trouve la question passablement originale. Est-ce que par hasard tu aurais oublié les 10 louis que je t'ai donnés et les 50 autres que je t'ai promis ?»«
100, s'il vous plaît. »«
Bravo, tu as bonne mémoire. »«
Oui, je n'ai rien oublié. »«
Eh bien, si je ne m'abuse, maître sorcier, c'est demain que nous nous occupons de l'enlèvement. »«
Cela ne se peut plus. »
Qu'est-ce à dire ? Il faut que vous attendiez 8 jours encore.
Corps du Christ, je n'attendrai seulement pas 1 heure de plus que le temps que je t'ai donné, Marot.
s'écria le chevalier en mettant pied à terre et en attachant la bride de son cheval à une branche de saule. Puis il fouetta cavalièrement ses bottes molles avec l'extrémité d'une charmante cravache. Carfor le regardait et ne répondait pas.
« Ne m'as-tu pas entendu ?»
demanda le chevalier.
« Si fait.
Eh bien, je vous le dis encore, c'est impossible.
Et moi je te répète que je ne veux pas attendre. »
« Il le faut cependant. »
« Pour quelle cause ?»
Le mariage de la jeune fille a été reculé de 8 jours.
« À quel propos ?»
« À propos de la mort du marquis. »«
Damné marquis !»
grommela le chevalier. « Il faut que sa mort vienne contrarier tous mes projets. Mais, palsambleu, nous verrons bien. » Puis, s'adressant au berger,
« Au fait, dit-il, que diable veux-tu que me fasse la mort du marquis de Locronan, dont Satan emporte l'âme ?»«
Il ne s'agit pas de la mort du marquis, répondit Carfor, mais bien du mariage qui se trouve reculé par cette mort. »
« Mon cher, je ne tiens en aucune façon à ce que la belle ait prononcé des serments au pied des autels.
Que je l'enlève, c'est par Dieu bien tout ce qu'il me faut. »
« Je comprends cela. »
« Eh bien, alors ?»« Ce mariage nous est cependant indispensable pour réussir. » »«
Que chantes-tu là, corbeau de mauvais augure ?»«
La vérité, ce mariage doit être notre plus puissant auxiliaire. »
« Explique-toi clairement. »
« Sachez donc que mes mesures étaient prises. Aujourd'hui même, jour de la bénédiction des deux promis, la fête de la Soule devait avoir lieu. »«
Qu'est-ce que c'est, la fête de la Soule ?»«
Une vieille coutume du pays, qu'il serait trop long de vous expliquer. » »«
Passons alors. » »«
Jahoua, le fiancé d'Yvonne, aurait été tué à cette fête. »«
Bah, vraiment ?»
Vous comprenez quel tumulte aurait occasionné sa mort?
Sans doute.
Dès lors, rien n'était plus facile, par ruse ou par violence, que de s'emparer d'Yvonne.
Tiens, 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 s'écria le chevalier en riant. Mais c'était fort bien imaginé, tout cela.
D'autant plus que j'aurais augmenté ce tumulte par des moyens qui sont à ma disposition, et peut-être réussi à faire un peu de politique en même temps.
« Très ingénieux, sur ma foi !»«
Malheureusement, vous le savez, la fête de la Soule et le mariage sont reculés. Il faut donc ajourner notre expédition. »«
Je ne suis pas de ton avis. »«
Cependant, je veux enlever Yvonne aujourd'hui, et morbleu, je l'enlèverai. »«
Sans moi ?»«
Avec toi, au contraire. »«
Comment cela ?»«
Écoute-moi attentivement. » Carfor fit signe qu'il était disposé à ne pas laisser échapper un mot de ce qu'allait dire le chevalier. « Nous disons, continua celui-ci, qu'il te faut un tumulte quelconque dans le village de Fouenan. »
« Oui, répondit le berger.
Cela est indispensable. »
« Tout à fait.
Eh bien, mon gars, j'ai ton affaire. »
« Je ne comprends pas. »
« Tu sauras qu'aujourd'hui même, il y aura à Fouenan non seulement un tumulte, mais encore un véritable orage, une émeute même, et peut-être bien un commencement de contre-révolution.
« Expliquez-vous, monsieur le chevalier !»
s'écria Carfor avec anxiété.
« Comment, tu ne sais rien ?»«
Rien ? Toi, un agent révolutionnaire !» continua le gentilhomme, « ou celui qui emportait l'habit. » Ravi intérieurement de prouver au berger que lui, Carfor, n'était qu'un de ces agents subalternes qui ne savent jamais tout, tandis que lui, le chevalier de Tessy, connaissait à fond les intrigues politiques du département. Carfor, effectivement, laissait voir une vive impatience. Le chevalier reprit.
« Voyons, je veux bien t'éclairer. Tu dois au moins savoir que depuis quelques mois, une partie de la Bretagne s'agite à propos des prêtres.
Pour le serment à la Constitution,
c'est cela.
Oui, les assermentés et les insermentés, les jureurs et les vrais prêtres, comme on les appelle dans le pays.
Parfaitement.
Je savais cela, monsieur, mais je savais aussi que jusqu'ici, la Cornouaille était restée calme. et que le département ne tourmentait pas les recteurs comme dans le pays de Léon, dans celui de Tréguier et dans celui de Vannes.
Oui, mon cher, mais tu n'ignores pas non plus que l'Assemblée législative a rendu un décret par lequel il est formellement interdit aux prêtres non assermentés d'exercer dans les paroisses. Comme tu viens de le dire, la Cornouaille, autrement dit le département de Finistère, n'avait pas encore sévi contre ces calotins. Mais l'administration a reçu des ordres précis, auxquels il faut obéir sans retard.
« Elle va sévir contre les recteurs ?» demanda vivement Carfor, dont l'œil brilla d'espoir.
« Sans doute.
En êtes-vous certain ?»«
J'en réponds. »«
Et quand cela ?»«
Tout de suite, te dis-je. »«
Bonne nouvelle !»«
Excellente, mon cher. Es-tu curieux de connaître l'arrêt de l'administration ?»«
Certes.
J'en ai la copie dans ma poche. »
« Oh, lisez vite, monsieur le chevalier !»
Le chevalier prit un papier dans la poche de son habit et il s'apprêta à en donner lecture.
« Écoute, dit-il, je passe sur les formules d'usage et j'arrive au point important. Nous, administrateurs, etc., etc., ordonnons ce qui suit. Premièrement, que toutes les églises et chapelles, autres que les églises paroissiales, seront fermés dans les 24 heures. Deuxièmement, que tous les prêtres insermentés demeureront en état d'arrestation. Troisièmement, que tout citoyen qui, au lieu de faire baptiser ses enfants par le prêtre constitutionnel, recourrait aux insoumis, sera déféré à l'accusateur public. Arrêté du département du Finistère, 30 juin 1791.
Or, continua le chevalier après avoir terminé sa lecture. « Il résulte des informations que j'ai prises que le recteur de Fouesnant n'est nullement assermenté. Aujourd'hui même, messieurs les gendarmes se présenteront au presbytère et l'arrêteront. Les gars du village tiennent plus à leur curé qu'à la peau de leur crâne. Crois-tu qu'ils le laisseront emmener ?»«
Non, certes, » répondit Carfor.
En poussant adroitement les masses, et c'est là ton affaire. On arrivera facilement à une petite rébellion. Or, une rébellion, maître Carfor, quelque minime qu'elle soit, ne s'accomplit pas sans beaucoup de tumulte. Et dans un tumulte politique, on garde peu les jeunes filles. Comprends-tu ?
Parfaitement.
Et tu agiras. Vous pouvez vous en rapporter à moi. À quelle heure les gendarmes doivent-ils venir au presbytère de Fouesnant ?
Vers la tombée de la nuit.
Vous en êtes sûr ?
J'en suis parfaitement certain.
Alors, trouvez-vous avec un bon cheval et un domestique dévoué à l'entrée du village, du côté du chemin des pierres noires.
Bon, à quelle heure ?
À 7 heures du soir.
Tu m'amèneras Yvonne.
À mon tour, je vous en réponds.
Seras-tu obligé d'employer du monde ?
Pourquoi cette question ?
« Parce qu'il me répugne de mettre beaucoup d'étrangers au courant de mes affaires. »«
Tranquillisez-vous, j'agirai seul. »«
Bravo, maître Carfor, tu es décidément un sorcier accompli. »«
Voilà le jour qui se lève, séparons-nous. »«
À ce soir, à Fouesnant. »«
À 7 heures, mais à condition que les gendarmes agiront de leur côté. »«
Cela va sans dire. »«
Adieu, monsieur le chevalier. »«
Adieu, mon gars. »
Et le chevalier de Tessy, enchanté de la tournure que prenaient ses affaires, décrocha la bride de son cheval, se mit légèrement en selle et partit au galop. Carfor demeura seul à réfléchir.
« Oh, les prêtres vont être poursuivis maintenant ?»
pensait-il, et un éclair joyeux se reflétait sur ses traits amaigris.
« On va donner la chasse au recteur ?
Tant mieux !» Les paysans se révolteront, les coups de fusil retentiront. C'est la guerre dans le pays.
La guerre ! Oh, il sera facile alors de frapper ses ennemis.
Quel malheur que ce marquis de Locronan soit mort si vite. Dans quelques mois, j'aurais peut-être pu le tuer moi-même.
N'importe, les autres me restent et Jahoua sera le premier.
Et Carfor, poussant un éclat de rire sauvage, frappa ses mains l'une dans l'autre en murmurant d'une voix vibrante « Tous, ils mourront tous, et je serai riche et puissant !»